distance in your eyes. Oh no, I've said touch, I set it up. That's me in the corner.
Retour en 1991 avec la formation R.E.M. et une de leurs pièces les plus connues, Losing My Religion.
Actualité culturelle, Yves Boisvert, qui est dans la section culture pour une grande entrevue d'un pivot à l'autre. L'un lit pour gagner sa vie, l'autre vit pour lire. Lui fuit les librairies, elle y entre comme dans une cathédrale. Il lit pour échapper à la tristesse du moment. Elle, au contraire, arrive à peine à lire dans les moments de spleen. C'est en écrivant ce livre sur la lecture que Cécile Pivot et son célèbre père Bernard ont constaté à quel point ils abordent cet objet de manière assez radicalement différente. Bien entendu, personne ne lit comme Bernard Pivot, lecteur professionnel depuis 45 ans. Depuis longtemps, mon éditeur veut que j'écrive sur la lecture, mais je répondais que mon expérience n'avait pas beaucoup d'intérêt, puisque toutes mes lectures ont été faites soit pour interroger les écrivains, écrire des critiques ou décerner le prix Goncourt. Le public ne s'y retrouvera pas. En revanche, j'ai à côté de moi une vraie lectrice qui ne lit que pour son plaisir, qui trouve toujours le temps de lire, qui a une conduite exemplaire qui méritait d'être connue du grand public, qui se retrouvera dans l'amour qu'elle porte à la lecture et aux livres, dit Bernard Pivot au téléphone depuis Paris. Ainsi est né Lire, point d'exclamation, qui paraît cette semaine chez Flammarion. C'est une sorte de bloc-notes joliment illustré où le père et la fille confrontent les vues sur l'acte de lire et ses rituels, parfois étranges, toujours personnels. Bernard Pivot a raconté souvent sa vie monastique comme animateur de l'émission culte Apostrophe entre 1975 et 1990, puis de Bouillon de culture 1991-2001. De 10 à 12 heures de lecture par jour, 7 jours sur 7. Chaque livre lu de la première à la dernière page. Des piles de livres qui arrivent dans un feu roulant incessant. 5, 6, 7 fois par jour. Des facteurs, des coursiers, de la concierge. Les piles partout dans l'appartement, dans un système de classement précis. Selon l'endroit où les livres étaient déposés, Cécile pouvait deviner quel sort plus ou moins favorable leur serait réservé, y compris ceux, l'immense majorité en fait, qui étaient redonnés en petits paquets à l'entourage selon les intérêts de chacun. Si le père maintenant âgé de 82 ans reconnaît que ses heures de lecture l'ont dérobé à la vie familiale, Cécile est plus discrète. C'était comment avec Bernard Pivot comme père? Il ne sortait pas, n'allait pas au théâtre ni au cinéma. S'il allait déjeuner avec un ami, il angoissait. « Ah là là, je suis en retard dans mes lectures. » C'était un livre par jour, alors ce serait un et demi le lendemain, dit sa fille. Il travaillait à trois endroits dans l'appartement, son bureau, le salon et la salle à manger, confie Cécile Pivot au bout du fil. Il passait de l'un à l'autre pour y faire des choses très précises. Je ne lui ai jamais dit, mais quand il n'était pas là, j'allais dans son bureau. J'adorais ça. L'odeur du papier, son meuble en L, très années 70, et la pagaille. C'était une drôle d'atmosphère. C'était un père absent. Physiquement, il était tout le temps là. Mais même quand il ne lisait pas, quand il mangeait avec nous, il n'était pas là. Il était dans le livre qu'il venait de lire, celui qu'il devait lire le lendemain, l'émission qui s'en venait. En même temps, j'étais très fière de mon père. Et je crois que les filles pardonnent plus facilement à leur père qu'à leur mère. Il a été chanceux d'avoir deux filles. Ma mère, qui était aussi journaliste, Monique Pivot, qui a dirigé notamment Gold et Milo, travaillait énormément elle aussi. J'ai tout de suite été une grande lectrice. Je me suis réfugiée de la solitude dans laquelle nous étions. Ainsi donc, à l'encontre du conseil classique, Bernard Pivot n'a jamais lu une seule histoire à ses enfants. Il ne cache pas ses regrets. Des gens plus intelligents que moi auraient consacré moins de temps à l'émission et l'auraient réussi aussi bien que moi. Je n'en sais rien. Pourquoi lire? Lire, lire, c'est bien beau, mais pourquoi, au juste? Les gens qui lisent sont moins cons que les autres. C'est une affaire entendue, écrit celui qui refuse coquettement le titre d'écrivain malgré les belles pages qu'il a écrites notamment dans « La mémoire n'en fait qu'à sa tête » paru en 2017. Il y a des imbéciles chez les lecteurs et des brillants chez les non-lecteurs. Mais en gros, ça se voit, ça s'entend, ça se renifle. Les personnes qui lisent sont plus ouvertes, plus captivantes, mieux armées dans la vie que les gens qui dédaignent les livres, écrit-il. Les deux disent leur préférence pour le roman. Elle cite Kundera. « La bêtise des hommes est d'avoir réponse à tout. La sagesse des romans est d'avoir question à tout. » Pour lui, qui ne passe pas une journée sans lire et sans ouvrir le dictionnaire, lire, ce n'est pas se quitter, c'est se glisser dans la présence des autres. Pour Cécile, qui confesse annuler des rencontres avec des amis pour aller lire en cachette au fond d'un café, c'est cette impression d'être une minuscule étoile au-dessus de personnages au destin fixe, fixé d'avance. Toutes ces existences qui ont traversé la mienne l'ont même influencée, sont ma plus grande richesse. Comment lire? Affalé dans un fauteuil, au lit, pas chez les pivots. Bernard est un lecteur janséniste qui considère qu'il ne faut pas cumuler les plaisirs du corps et de l'esprit. Il faut être physiquement ni bien ni mal, être absent de sa carcasse pour être le plus présent possible dans les mots de l'écrivain. Fumer en écrivant? Oui, mais pas en lisant. La fumée pourrait déranger les personnages. Pas question non plus de lire sur la plage dans la rudesse des galets et l'intrusion horripilante du sable. Cécile a besoin d'une chaise sur laquelle poser ses coudes, ou debout dans la cuisine. En fait, elle change sans cesse de lieu pour fuir les nombreux sujets de diversion, du rangement au lave-vaisselle à la radio. Courage, fuyons! De toute évidence, et contre toute attente, cette femme n'a pas pris en grippe le livre bien qu'il lui ait volé son père pendant toute sa jeunesse, à la surprise de celui-ci. Du temps d'avant la télé, il n'était pas rare qu'on traite les enfants lecteurs de paresseux. Mais aujourd'hui, c'est au contraire un sauve-conduit face aux tâches familiales. On ne dérange pas un enfant qui lit. On ne va pas le contrarier en lui demandant de laver la vaisselle, dit Bernard Pivot. Lire est aujourd'hui un refuge qui donne à celui qui s'y adonne une sorte de position enviée. Quand un adolescent lit, les parents disent « surtout ne le dérangeons pas », dit Bernard Pivot. Peu importe, un enfant qui lit une bande dessinée ou Stendhal, qui lit un livre sur le sport ou un roman de science-fiction, c'est très bon pour lui. L'essentiel, c'est l'activité même de la lecture. Tout ne se vaut pourtant pas dans la lecture. Évidemment, si l'adolescent ne lit que des choses stupides, mais je n'y crois pas du tout, dit le président de l'Académie Goncourt, parce que l'écran du smartphone, ou phone, est devenu un tel concurrent à la lecture que l'enfant qui lit ne va pas perdre son temps à lire des banalités. Le métier de lire sans arrêt n'apporte pas que des bonheurs. Le père Pivot, qu'on ne soupçonnerait pas de mesquinerie, avoue qu'il lui est arrivé à apostrophe devant des auteurs rasants de se venger de l'ennui auquel il l'avait soumis par des questions distantes et des remarques persifleuses. Le rythme n'est plus aussi frénétique, mais après ses engagements télévisuels, il a accepté une chronique littéraire au Journal du Dimanche, en plus de l'Académie Goncourt, qui lui met au menu entre 40 et 60 romans pour l'été. Parfois, je maudis le Goncourt quand il fait très beau et que je dois lire un livre de toute urgence. Et parfois, quand il pleut, je me dis heureusement que j'ai la lecture. Même si plusieurs vous tombent des mains, vous n'allez pas demander à tous les livres d'être bons. Et puis, le livre que je trouve excellent, vous allez le trouver navrant. Et à l'Académie Goncourt, inutile de vous dire qu'il n'y a pas unanimité sur les livres. C'est ça qui est intéressant dans la vie littéraire. Il y a des débats, des polémiques, et c'est tant mieux. Parmi ces beaux souvenirs, un grand poète québécois. Il y a une antinomie entre le chuchotis de la poésie et la violence même de l'image et de la parole à la télévision. Les émissions que j'ai faites sur la poésie étaient toujours un peu décevantes parce que les poètes étaient timides. Il y a une exception. C'est Gaston Miron, parce que lui n'avait pas peur de la télévision. Il s'était levé et avait dit de mémoire un poème sur sa fierté d'être québécois. Ça avait eu un grand retentissement en France, surtout à le voir au milieu des autres poètes, les fesses coincées. La vie est difficile pour le livre, soyons clairs. Le livre en France est sous perfusion, dit Cécile. Subventionné, protégé par le prix unique, encouragé par les festivals, les initiatives pour les jeunes, les librairies qui ferment, mais il existe encore. Faut pas être trop pessimiste, nuance le père. Après les excès des écrans, la lecture revient. Ils ne sont pas assez nombreux, hélas, non, mais il ne faut pas condamner la lecture. C'est une conquête plus difficile qu'autrefois. Ce n'est plus une activité aussi naturelle. C'est pourquoi je dis que la France insoumise, mais je pourrais dire le Québec insoumis, c'est celle qui lit, sur tablette ou sur papier. Considérant les tentations qui le sollicitent quand l'adolescent choisit un livre d'une certaine manière, c'est un acte d'héroïsme, dit le journaliste-écrivain, qui souhaite mourir un livre à la main. Cécile, elle, voudrait plutôt vivre une autre fois. La vie est mal faite. Il nous en faudrait deux. La seconde serait consacrée à relire les livres que nous avons aimés et tous ceux qui, hélas, n'ont su nous séduire. Lire par Bernard Pivot et Cécile Pivot, publié chez Flammarion, compte 192 pages et sera en librairie le 19 avril.
l'amour. Navigateur, mains ouvertes sur les songes. Tu sais la carte de mon cœur, les jeux qui te prolongent. Et la lumière chantée de ton âme, mon bel amour, navigateur. Et la lumière chantée de ton âme, mon bel amour, navigateur. Le pied secret, ce qu'il nous faut écouter. L'oreille comme un coquillage, dans quel pays tu sembles. Amour et moi, dans l'octave du don. L'oreille comme un coquillage. Navigateur sur la jetée de la nuit, je saurai ma présente d'un vœu à l'azur ton mystère. Déchiré d'un espace, rouge gorge, mon bel amour, navigateur. Déchiré d'un espace, rouge gorge, mon bel amour.
De Jim Corcoran, le texte est de Gaston Miron, tiré de L'Homme Rapaillé. C'était Mon Bel Amour, un extrait de l'album 12 Hommes Rapaillés, volume 1.
Sujet libre, des cinéphiles qui ont du chien. Une salle de projection montréalaise s'est transformée en parc à chiens le temps d'un film hier soir. Le cinéma du parc a invité les maîtres et leurs toutous pour une représentation d'Isle of Dogs, un film d'animation de Wes Anderson, mettant en vedette le meilleur ami de l'homme. En deux jours, tous les billets avaient trouvé preneur à deux ou quatre pattes. Oursin, un chien Mira, relevé de ses fonctions pour un problème de genou, profite bien de sa retraite. On a des photos entre ses maîtresses Ève Lachapelle et Elisabeth Gauthier. Il attend le début de la représentation. On est venu pas mal juste pour le chien, admet Elisabeth en riant. Quoique c'est un film de Wes Anderson, alors on est pas mal certaine que ça va être bon. L'idée est née d'une initiative semblable à Dublin et s'est confirmée dans l'esprit des administrateurs lorsqu'une cliente a signifié son intérêt pour un tel happening. On savait que ce serait populaire. En deux jours, les 160 billets se sont vendus, incluant les places pour les chiens, a dit Jean-François Lamarche, directeur général adjoint du cinéma du parc, ajoutant que si la soirée se déroulait sans ennui, l'expérience pourrait bien se répéter. Carole Bergeron était curieuse de voir la gestion de la soirée avec tous ses spectateurs à quatre pattes. Les chiens étaient calmes et à peine quelques aboiements se sont fait entendre. Molly, sa golden doodle de 3 ans, était assise bien droite pendant la représentation. Il faut dire qu'elle avait une bonne raison de faire bonne impression puisque son amoureux du parc à chiens, Benji, était assis à ses côtés. Assise en plein centre de la première rangée, Geneviève Blais savourait sa soirée qu'elle attendait avec impatience. Ses 3 chiennes, Agathe et Lily Rose, 13 ans, et Catherine, 1 an et demi, avaient chacune leur billet. Mais elles ont écouté le film sur le même siège, trop lourd à garder, baissé pour chacune d'elles. Quand Agathe était bébé, je l'avais emmenée au cinéma cachée dans mon manteau. Et là, elle a 13 ans. Elle est presque aveugle et ça me rend émotive d'être ici avec elle, a confié sa maîtresse. C'était soirée tricherie pour Lucie. La belle blonde a eu droit au classique popcorn pour accompagner le film, pendant lequel elle s'est rapidement endormie sur les genoux de son maître Gabriel. C'était un peu l'idée derrière l'initiative, a expliqué le directeur général adjoint du cinéma, que les gens se sentent comme à la maison tout en faisant une sortie au cinéma. Afin de maximiser les chances que tout se déroule dans le calme, des animaliers étaient sur place. Le nombre d'employés avait été doublé, le volume du film avait été diminué et les lumières avaient été seulement tamisées. Des sacs de plastique recouvraient les bancs des chiens et comme les maîtres de Boubou, un imposant bouvier bernois, de 10 mois seulement, les participants devaient apporter une couverture pour couvrir le banc sur lequel Toutou était installé. Il ne suffisait pas d'une idée originale et de la bonne volonté pour rendre cette soirée possible. Les organisateurs ont dû penser à de nombreux détails comme l'accord des assureurs et des gestionnaires du centre commercial dans lequel se trouve le cinéma. Daphné, sa chienne Jaca et tous les autres spectateurs ont assisté à la représentation de 21h hier soir, une plage horaire judicieusement choisie pour donner le temps à l'équipe d'entretien de bien nettoyer la salle par la suite. Un dossier restauration, Nadiel Couteloup. Les enfants, bienvenue au restaurant. Dans mon texte, mon enfant, pas dans ton restaurant, publié sur son blog, Yann Perrault lance d'emblée. Alors, dans son texte, dis-je bien, mon enfant, pas dans ton restaurant, publié sur son blog, Yann Perrault lance d'emblée. J'aime bien aller au restaurant avec ma famille et j'aime la cuisine bien apprêtée. Je ne veux pas toujours aller dans un restaurant de type familial, mais lorsque je vais dans un resto un peu plus trendy, j'ai l'impression que mon enfant est de trop. Et pourtant, ça n'est vraiment pas difficile de satisfaire un enfant de 2 ou 3 ans. Quels sont les problèmes soulevés par Yann Perrault? Des restaurants sans table allongée ou chaise haute, ou encore une chaise d'appoint tellement souillée que je dois utiliser 12 lingettes pour tout nettoyer. Un service trop lent pour les enfants, ou encore l'absence de jus au menu. Est-ce si compliqué d'offrir un menu composé de plats autres que ceux préparés avec de la friture ou des pâtes, se questionne le chef? Sa sortie a enflammé les réseaux sociaux. Le chef Danny Saint-Pierre a renchéri en écrivant sur Facebook « Le plus dur, c'est les parents caves qui n'entendent plus leurs enfants ou qui considèrent que c'est correct que leurs enfants courent partout les mains beurrées. » Yann Perrault a décliné une demande d'entrevue sur le sujet avec la presse. « J'ai mentionné dans mon blog déjà tous mes commentaires à ce sujet », nous a-t-il poliment répondu par courriel. Les familles sont toujours bienvenues dans un restaurant, d'après le conseiller en communication de l'Association des restaurateurs du Québec, Martin Vézina. Un restaurateur va accepter n'importe quelle clientèle parce qu'il veut faire vivre son établissement. L'enjeu, ce n'est pas tant si le restaurateur va s'adapter, mais c'est plus souvent le regard que pourraient poser les autres clients par rapport à la clientèle familiale, soutient-il. Il estime toutefois que les parents ne devraient pas s'empêcher de fréquenter ces endroits, s'ils se sentent à l'aise et que leurs enfants peuvent vivre avec certaines règles dans un resto. Hugo Vincent Mariotti, chef du bistrot West Brand à l'auberge du même nom dans les cantons de l'Est, constate que de plus en plus de parents emmènent leurs enfants manger à de bonnes tables. « Je crois que c'est parce qu'ils ne veulent pas se priver d'une bonne bouffe », lance celui qui a travaillé au Ferreira Café et au Beaver Hall et qui est père de 2 filles de 4 et 8 ans. Son établissement accueille régulièrement des enfants. Je crois cependant qu'il y aura toujours des restaurants qui ne seront pas adaptés aux enfants, c'est leur style. Mais je pense que tranquillement, il y a une certaine évolution qui se fait. Même si son établissement ne dispose pas de table allongée, il admet que tous les restaurants devraient en avoir. Le chef souligne aussi que dans des restaurants huppés, il y aura toujours des clients qui ne voudront pas voir d'enfants. Et on ne peut pas imposer les enfants aux clients, dit-il, en soulignant que les restaurateurs ne veulent pas qu'une clientèle nuise à l'autre. Pour satisfaire ces différentes clientèles, M. Mariotti explique que dans beaucoup d'établissements, les serveurs dirigeront souvent la clientèle familiale vers une certaine section du restaurant, plus éloignée du bar, par exemple. De nombreux restaurants en vogue délaissent l'éternel menu pour enfants pour des propositions culinaires plus intéressantes, comme le bistrot West Brome, qui offre, entre autres, des petites portions de saumon ou de bavette avec des frites maison et des légumes. Au restaurant gastronomique Les Labours du luxueux hôtel Le Germain-Charlevoix, il n'est pas rare de croiser des enfants de moins de 5 ans. Beaucoup de parents aiment faire découvrir une expérience plus gastronomique à leurs enfants, sortir des sentiers battus et leur proposer de nouvelles saveurs, confirme le directeur de la restauration de l'hôtel Le Germain. On propose ici un menu pour enfants qui a une touche locale, comme un macaroni maison au fromage Migneron de Charlevoix. Je vois des familles commander une table d'hôte à partager pour leurs deux enfants parce qu'elles ont envie de leur faire goûter autre chose. Alors, on fait deux petits plats. Le restaurant dispose aussi de chaises hautes et de tables allongées. Quant au service, les parents font souvent remarquer qu'il est un peu long. C'est sûr que ce ne sera pas aussi vite que le Saint-Hubert. Et les enfants doivent bien respecter le cadre. Il reste que les enfants sont une clientèle stratégique à séduire. Ces joyeux bambins sont nos futurs consommateurs de demain. Des restos branchés appréciés des parents? Milos, restaurant A, chez Lionel, Nouveau Palais et le Clocher Penché. Alors, je reviendrai demain sur le dossier parce qu'il y a d'autres sections, conseils pour un repas réussi et des expériences inégales. Donc, ce sera pour demain puisque l'émission est presque terminée. Merci d'avoir été à l'écoute en ce lundi 16 avril 2018. Merci Jean-Sébastien Laliberté à la mise en onde et au choix musical. Ici Hélène Denis qui vous retrouve dans quelques minutes à l'émission Les Paractualités.